Voilà, on m'a appris que pendant l'été, vous parliez de personnages bibliques. Et ma première pensée, je t'ai dit, ouais, je veux parler d'Isaac. C'est sympa, il rit. Eh ben non, on va pas parler d'Isaac. On va parler du personnage que Carla a parlé tout au début, un roi. Le roi Manassé. Généralement, quand on prend des personnages bibliques, on prend des bons personnages, des gens qui ont tenu le coup, qui ont fait la différence, qui ont marché avec Dieu et tout ça. Et rarement, on prend des super méchants. Manassé est un super méchant. C'est un champion olympique dans sa catégorie. Vous savez que le royaume, après Salomon, a été divisé en deux, le royaume de Juda, le royaume d'Israël, et le royaume d'Israël avait un super méchant qui s'appelait Akab, et le royaume de Juda a eu son super méchant, c'est le roi Manassé. Et on va voir ce roi qui est quand même surprenant, et j'aimerais que vous puissiez voir ce texte, et peut-être que vous allez dire, oh, c'est normal. Parce qu'en réalité, ça finit bien, je vous le rassure. Mais peut-être que vous allez dire, oh, c'est normal. Mais on est en 698 avant Jésus-Christ. Jésus n'a pas encore donné sa vie sur la croix. Il n'est pas encore mort sur la croix. Et souvenez-vous que même au temps d'Israël, quand ils étaient dans le désert, quelqu'un qui a pris du bois le jour du Shabbat a été mis à mort. Vous vous souvenez de ça? C'était dans la traversée du désert, dans l'Exode. Il y en a un, le jour du Shabbat, il désobéit, il prend du bois et ils le mettent à mort. Donc vous verrez, on est dans un contexte comme cela, mais c'est quand même très très surprenant comment la grâce de Dieu a agi pour ce roi, le roi Manassé. Et on va lire un peu son histoire. Je peux prendre ça? Je peux. Oui? C'est vrai? Hein? Merci. C'est vrai? Non, mais attends, j'ai la petite bouteille avec moi, quoi. On s'équipe. Avec ce corona, tu verras, on aura bientôt les équipes pastorales dans les églises, ils auront bientôt un kit. Ceinture avec la petite bouteille, la petite bouteille d'huile, la petite bouteille de désinfectant, la petite ceci et cela, ça va être top ça, il faut qu'on invente ça. C'est vrai que Manassé, on ne connaît pas grand-chose de lui. J'entends, on n'en parle pas souvent. Son père était très connu. Son père était un grand roi. David a marché dans les voies de Dieu. Et son père a marché comme David dans les voies de Dieu. Son père s'appelait Ézéchias, le roi Ézéchias, le grand roi Ézéchias. Et Manassé, c'est son fils. Et il est dit ceci dans 2 Rois 21, je vous lis les 9 premiers versets. Il est dit que Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Bon sang, 55 ans de règne, c'est beaucoup. Pour une crapule, c'est beaucoup. Il y en a qui ont fait 2 ans seulement, hein. Puis, mais lui, 55 ans. Le nom de sa mère était Hephtsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait fait disparaître. Il éleva des autels à Baal. Il fit un poteau d'Achéra, comme l'avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et lui rendit un culte. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, dont l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que je placerai mon nom ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il tirait des présages, il pratiquait l'occultisme. Il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit la statue d'Achéra qu'il avait faite dans la maison dont l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison
et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux pour toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer les pas d'Israël hors du territoire que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils observent et mettent en pratique tout ce que je leur ai commandé conformément à toute la loi que leur a donnée mon serviteur Moïse. Mais ils n'ont pas écouté, et Manassé les a égarés de sorte qu'ils ont fait le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Donc Manassé, fils d'un roi, fils d'un très grand roi, d'un roi qui craignait l'Éternel, d'un roi qui a marché dans une ligne qui était conforme à la volonté de Dieu. Donc Manassé, quelqu'un d'averti. Aujourd'hui, on dirait que c'est un enfant de croyant. C'est un enfant de chrétien, Manassé, si on peut dire comme ça. Hein ? Ouais, enfin, accordez-moi ça. C'est-à-dire un enfant de personne qui connaissent, en tout cas les parents, connaissent le plan de Dieu. Et certainement qu'Ézéchias a enseigné ce plan de Dieu. Certainement qu'Ézéchias a parlé à son fils. Ça ne signifie pas qu'Ézéchias était le plus parfait de tous les rois. Comme nous, hein, on n'est pas les plus parfaits de tous les parents. On essaye. Et Manassé, donc, quelqu'un qui avait reçu une éducation. Il savait ce qui était juste et il savait ce qui était mal. Il savait ce qui était juste aux yeux de Dieu et il savait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et Manassé a 12 ans lorsqu'il devint roi. C'est jeune, je vous l'accorde, c'est jeune. Mais un roi à cette époque-là, surtout dans ces territoires, autant en Israël qu'en Juda, c'est-à-dire qu'il y a la séparation, hein, on dit, un roi, ça devait être un modèle. Ça devait être quelqu'un qui pouvait être regardé et qui pouvait être suivi. C'était un modèle pour le peuple. Non seulement il dirigeait le pays, il conduisait le peuple, mais il devait être un modèle pour le peuple. Donc Manassé, c'était son rôle, comme David, ça a été son rôle. Et ce roi Manassé, le roi de Juda, c'est pas simplement un roi qui a été élu comme ça. Suffrage, voilà, la majorité, tout ça. Non. Dieu avait donné comme son consentement, il avait mis un sceau sur cette lignée royale. Et cette lignée royale devait être un modèle. Donc Manassé, quelqu'un d'averti, quelqu'un qui avait reçu, entre guillemets, une éducation religieuse, si on peut dire comme ça, et quelqu'un qui se devait d'enseigner le peuple dans cette voie-là. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce roi ? Nous l'avons lu, c'est un roi qui accepte toutes sortes de cultes sur le territoire de Juda. Mais on voit que non seulement il les accepte, mais lui va les pratiquer, et il va conduire le peuple à pratiquer tous ces cultes, toutes sortes de cultes qui étaient en Juda à cette époque-là. Et Dieu avait dit, hein, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, mais alors là, c'est le comble du comble. Et Manassé, donc, c'est un roi qui va devenir idolâtre. Et non seulement il accorde un culte à toutes sortes de divinités, mais il va pousser le peuple à se consacrer à ces divinités. Et la Bible nous dit que ce roi pratique l'occultisme. Et au niveau de l'occultisme, ce n'est pas seulement tirer des présages, pas seulement quelques cartes, les horoscopes par-ci, par-là, mais vraiment du top niveau. C'est déjà un niveau un peu plus haut, l'occultisme, du spiritisme, communication avec les esprits des morts, sorcellerie, tout est bon. Mais vraiment, tout est bon pour Manassé. Et voilà cet homme, ce modèle, en fait, c'est un homme qui, au fur et à mesure de ses pratiques, va être comme habité, si je peux dire comme ça, par la puissance de l'adversaire. Un squat ambulant. Donc Manassé, un homme qui avait reçu des bases, qui avait reçu un fondement qui était juste, mais un homme qui est devenu corrompu sur le plan spirituel. Tout est bon. Il pratique l'occultisme, la sorcellerie, le spiritisme, et il amène le peuple. C'est ça. Il amène le peuple à pratiquer ces choses. Et la parole de Dieu nous dit même qu'il va établir, il bâtit des autels, attendez, il tirait des présages, tout ça, toc, 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 hein. Il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Quand il est dit « il établit », c'est-à-dire qu'il a mis dans son gouvernement, autour de lui, des gens qui faisaient de la communication avec les morts, des gens qui pratiquaient de l'occultisme, du spiritisme, et il les a établis comme conseillers sur le peuple. Et Manassé va devenir aveugle, et c'est un aveugle qui va conduire des aveugles. Et quand il va arriver au bord du précipice, lui va tomber, mais non seulement il va entraîner tout le peuple à tomber avec lui. Et l'Écriture nous dit que c'est un roi provocateur à l'égard de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que si Manassé fait cela, c'est pas seulement parce que tout d'un coup il s'est égaré. Comme certains qu'on peut rencontrer, des gens qui ne connaissent pas le plan de Dieu et puis qui cherchent par tous les moyens à remplir un vide intérieur et puis qui choisissent des mauvaises voies. Manassé, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que le texte dit que Manassé fait cela pour irriter Dieu. En fait, il le fait exprès. C'est un vrai provocateur. Il veut irriter Dieu. C'est le texte hein, qui le dit. Que je lis ça. Attendez, toc, 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 toc. Voilà. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Donc Manassé sait très bien ce qu'il fait. Franchement, il provoque, c'est un blasphémateur. Il provoque et dans sa provocation, il va égarer le peuple. Et il va régner 55 ans. Mais Seigneur, mais comment t'as pu faire ça? Enfin bref, je vous dis, l'histoire est belle quand même. Mais voilà, la Bible nous dit aussi que Manassé est un homme violent et cruel. Quand on lit 2 Rois 21-16, il est dit ceci, 21-16, « Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. » Donc ça a été un homme cruel, très cruel. En fait, la tradition juive affirme que le prophète Manassé est l'assassin du prophète Ésaïe. Le prophète Manassé. Le roi Manassé, selon la tradition juive, est l'assassin du prophète Ésaïe. En fait, il aurait mis Ésaïe entre deux planches de bois et il aurait demandé que ces planches soient sciées, avec Ésaïe entre. On a une référence à cela dans... dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Je ne sais plus quel verset, mais on a une référence à ça où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Certains furent sciés ». Et c'est une pensée par rapport à cela. Donc, on voit ce roi. Franchement, il n'y a pas grand-chose de positif hein, dans sa vie. Et certainement que c'est un roi qui va aussi faire des sacrifices humains. C'est certainement comme ça qu'il faut comprendre, il fit passer son fils par le feu. Donc, waouh, quel roi, hein ! C'est vraiment un homme impie qui nous fait penser à certaines figures de l'histoire. C'est du top niveau au niveau méchanceté. C'est un Pol Pot, c'est un Adolf Hitler, c'est de ce style-là qu'on a ici. Et pourtant, les avertissements n'ont pas manqué, hein ! Les prophètes sont venus et sont intervenus. Manassé, ce que tu fais est mauvais aux yeux de Dieu. Et si je comprends bien le texte, Manassé aurait pu dire quoi ? Dieu est choqué. Mais les gars, mais je vais passer la deuxième alors. Je vais lui montrer que je peux faire encore mieux que ça. Souvenez-vous, il veut irriter Dieu. Il le fait exprès. Et peut-être qu'il s'est dit, mais attendez, si Dieu est choqué par ça, moi je peux encore en mettre une couche, hein. Alors, pour toutes ces choses que Manassé a commises, l'occultisme, le spiritisme, la sorcellerie, l'invocation des morts et tout ça, la Bible donne le châtiment, c'est la mort. On est dans l'Ancien Testament, mes amis, c'est la mort. Et des fois, quand on considère la vie de personnes comme Manassé, comme ça, on se dit des fois, c'est peut-être même trop gentil. Parfois. Non, il n'y a que moi qui pense ça. Mais enfin. Donc, il fallait que Manassé paie, parce que l'Écriture le disait. Et en effet, on peut se considérer, quand on regarde la vie de Manassé, on peut se dire, mais est-ce que là, la limite, elle n'était pas atteinte, déjà même dépassée depuis un certain temps? La parole de Dieu dit que celui qui a consulté les devins est passible de mort. La parole de Dieu dit que celui qui est idolâtre est passible de mort. C'est la loi de Moïse qui le dit. Et il fallait que quelqu'un paie, et c'était normal que Manassé paie. Et c'est ce qui est arrivé. Et je vais vous lire ce texte que Carla nous a partagé tout à l'heure dans 2 Chroniques 33. Il est dit au verset 11, « Alors l'Éternel fit venir contre eux, contre Juda et tout ça, hein, les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils s'emparèrent de Manassé avec des crochets, ils l'attachèrent avec des entraves de bronze et l'emmenèrent à Babylone. » Et je pense que certains du peuple ont dû dire « Yes !» Enfin, peut-être, hein, peut-être, peut-être, ouais. Mais, waouh, donc peut-être que certains se sont dit bon débarras, voilà, et surtout qu'ils ne reviennent pas. Et Manassé est mis en prison à Babylone. C'est intéressant hein, quand on dit avec des crochets, oh, ces Assyriens, c'était un peuple cruel, terrible. Les archéologues ont retrouvé des fresques qui nous donnent une explication par rapport à ces crochets. Ils ont découvert des images gravées d'Assyriens qui ont vaincu des peuples et tout ça. En fait, ils mettaient des crochets ici, là, par la narine, et puis ils sortaient comme ça. C'était un peuple cruel. Mais quand vous avez un crochet là, vous ne pouvez pas vous enfuir. Ce n'est pas possible. Donc, le peuple assyrien était un peuple vraiment cruel. Et il est enchaîné, il a ses crochets, il est enchaîné dans des entraves de bronze, et puis hop, il est emmené à Babylone, il est emmené en prison. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que tout le pays est en train de payer. Tout le pays est assiégé par la Syrie. Et cela nous montre que non seulement Manassé paye pour sa propre faute, mais le peuple paie aussi pour la faute de Manassé. Ils ont suivi Manassé. Manassé devait être un modèle, mais dans sa manière de faire, ce qu'il avait choisi, il a égaré le peuple. Et Manassé est dans sa prison, il est dans les fers. Et puis, des fois, on peut se dire, « Ouh, yes, au moins à cet endroit-là, il ne fera plus de mal. C'est l'endroit qui lui convient. » Mais il est dit ceci. Au verset 12, « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. » Et le comble du comble, c'est ce qui suit. « Et l'Éternel l'exauça. » On est dans l'Ancien Testament, mes amis. Jésus n'était pas encore mort sur la croix pour porter les péchés de toute l'humanité. Et l'Éternel l'exauça. C'est un danger public, ce gars. Franchement, c'est un danger public. Vous reportez ça à les personnages qu'on a pu parler tout à l'heure, un Adolf Hitler, un Pol Pot ou je ne sais pas quoi. Vous vous rendez compte? C'est comme si vous prenez Adolf, il est en prison après que les Alliés aient vaincu. Et puis, au bout de 5 ans, tout d'un coup, les Alliés le libèrent et le remettent au gouvernement, en place comme chef du gouvernement allemand. Vous rendez compte? Ben, c'est ce que Dieu a fait pour Manassé. C'est exactement ce que Dieu a fait là. Waouh! Incroyable! Manassé, il va implorer. J'aime beaucoup ce mot, implorer. Implorer le Dieu de ses pères. D'autres traductions disent « il chercha la faveur de Dieu ». Mais ce mot, il est très, très beau en hébreu parce que ce mot signifie « il caressa la face de l'Éternel ». Il caressa la face de l'Éternel. Waouh, c'est beau, hein ? Dans sa repentance, c'est comme s'il a caressé la face de l'Éternel. Et waouh, waouh. Et puis, il est dit ceci, le texte continue en disant ceci, « l'Éternel l'exauça ». Et le texte continue en disant, il écouta sa supplication. Et puis on aurait pu dire, ben voilà, Manassé, il est pardonné, c'est bien. Il est dans sa prison, mais il a déjà le cœur léger. C'est déjà pas mal. Et puis le texte continue en disant ceci. Il le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Il le rétablit comme roi de Juda. Et ainsi Manassé reconnut que l'Éternel, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Waouh ! Manassé est au fond de son trou, il est dans ses chaînes. Il ne pouvait rien exiger. Le châtiment qui était normal, qui devait tomber sur lui, c'était la mort. Mais Manassé va s'humilier profondément. Il va regretter, il va rentrer en lui-même. Et à un moment donné, il s'attend à la décision de Dieu. Il caresse la face de l'Éternel. Et pour lui, la réponse sera soit la vie, soit la mort. Et là, Dieu intervient en faveur de Manassé. Dieu se laisse fléchir. C'est incroyable. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas le péché de Manassé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas toutes les horreurs que Manassé a pu commettre. Ça veut simplement dire que Dieu fait grâce. Cette grâce que, malheureusement, nous ne comprenons pas toujours. Mais Dieu fait grâce. Fait grâce. Moi, je n'aurais jamais fait grâce à Manassé. Enfin, bref. Non, mais Dieu fait grâce. Et quand bien même Manassé est coupable, Manassé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et de la même manière, nous pouvons trouver grâce, nous, aux yeux de Dieu. L'Écriture nous dit que l'Éternel l'exauça, donc il lui accorde son pardon. Quand bien même Manassé fut le pire des rois de Juda, Dieu a donné son pardon. Et Manassé aurait très bien pu rester dans le pardon et rester dans les chaînes, même avec le crochet. Vous savez, des fois, on a pu entendre des prisonniers aux États-Unis qui étaient dans le couloir de la mort, qui savaient que dans peut-être les années à venir, ils allaient passer soit à l'injection, là, soit à, je ne sais pas si ça existe encore, la chaise électrique, mais enfin, et certains ont pu dire, mais c'est normal que je meure avec ce que j'ai fait. J'ai enlevé des vies, donc c'est normal que je meure. Mais j'ai le cœur léger parce que j'ai rencontré Jésus et il m'a pardonné. Et je sais que même si je passe par l'injection et tout ça, je vais vivre éternellement. Et Manassé aurait pu rester comme ça, il aurait pu rester dans les chaînes. Il était libéré sur le plan intérieur, il aurait pu rester physiquement dans les chaînes, rester dans sa captivité. Mais Dieu a donné son pardon et bien plus encore, il l'a libéré de toutes ses chaînes, absolument de toutes ses chaînes. Et il a ouvert les portes de cette prison, il l'a fait sortir de sa prison. Mes amis, des fois, nous nous gardons des chaînes dans nos vies. Des fois, on est libéré d'une grosse chaîne, mais on garde encore quelques poignées de bronze. Des fois, on se suffit du pardon dans nos vies et puis on accepte d'avoir encore des chaînes dans nos vies. Mais Dieu veut nous libérer de toutes les chaînes, absolument de toutes les chaînes. Waouh ! Donc Manassé a été pardonné, Manassé a été libéré. Ça, c'est vraiment incroyable, incroyable. Et voyez-vous, Manassé, ce qui est encore plus incroyable, c'est que Dieu va le remettre sur le trône de Jérusalem. C'est un danger public, ce gars. Franchement, c'est un danger public. Il a reçu le pardon de Dieu, il n'avait aucun droit à la libération, il a été libéré et tout ça, et il aurait pu très bien, j'entends comme des fois ça se passait il y a bien des années, qu'ils reçoivent une petite datcha au fin fond de la Sibérie, au bord du lac Baïkal, pour être en exil, quoi. Ça aurait pu être ça. Mais il est à Jérusalem, il le remet à Jérusalem, Dieu le remet dans une position pour être un modèle, pour conduire à nouveau le peuple. Il en a tué je ne sais pas combien, il a établi tout ce qui pouvait être dans l'occulte à cette époque-là, dans son gouvernement, et Dieu va le remettre dans une position. C'est un risque, hein. Dieu aime les risques, hein. Il n'y a rien qu'à voir nos vies. Il aime les risques. Mais Dieu a été rétabli. Vraiment, Manassé a été rétabli. il a vécu une libération totale. Il a vécu une guérison, une libération totale. Waouh! Et mes amis, je crois que Dieu fait ça aujourd'hui. Parfois, des fois, on se suffit du pardon de Dieu et on reste dans les chaînes. Et des fois, nous croyons que c'est de l'humilité de rester, ou alors de rester dans l'indignité. Mais Dieu l'a rétabli dans une position royale. Et des fois, nous restons sous un joug de culpabilité. Je ne suis pas digne. Des fois, nous restons comme ça. Mais pour Manassé, Dieu l'a rétabli complètement. Et Manassé va finir sa vie d'une manière digne, vraiment digne. Waouh, le pire des rois. Akab est passé à côté, mais pas Manassé. Akab, le roi d'Israël, est vraiment passé à côté. Pourtant, il avait le prophète Élie avec lui, si on peut dire. Dans son temps, il avait le prophète Élie. Élie a ramené la pluie. Élie a ramené tout un peuple à reconnaître que l'Éternel est Dieu. Akab était présent. Il a vu le feu de Dieu descendre sur l'autel d'Élie. Il a vu l'eau du ciel tomber. Et pourtant, son cœur n'a absolument pas changé. Mais le cœur de Manassé a changé, complètement changé. Waouh! Et j'aimerais dire que, mes amis, le Seigneur peut faire ça pour nous, à tout moment. Et j'aimerais dire que s'il y a quelqu'un qui aurait besoin de pardon ce soir, j'ai envie de faire trois choses ce soir. Déjà, premièrement, par rapport au pardon, des fois on se culpabilise, et puis des fois on a besoin de dire à Dieu, de reconnaître peut-être une faute et des choses comme ça. Vous savez, il y a j'ai vécu des fois ce que David disait, tant que je me taisais, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Tant que je ne l'évoquais pas, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Il y a des fois où j'ai pris pas mal de chemins de traverse. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Un chrétien et ses chemins de traverse. Tiens. Et puis d'un coup, je suis parti. Un peu comme Salomon, tout d'un coup dans sa vie, il va tester des trucs et tout ça. Ça va lui apporter que de la misère. Ça m'a apporté que de la misère. Mais une chose, c'est que quand tout d'un coup on est sorti des chemins de Dieu, quand tout d'un coup on est sorti de la volonté de Dieu, quand tout d'un coup on a embrassé, si on peut dire comme ça, le péché, plus on va attendre pour le confesser, plus on va être mal dans nos vies. Et plus ça va ronger notre vie. Et je comprends pourquoi David, à un moment donné, disait « Tant que je me taisais, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. » Par rapport à ça. Et il parle concrètement de choses comme ça. Et Catherine m'a dit « Laurent a fait quelque chose de super. » Je pensais à ça en venant aussi. C'est-à-dire, vous êtes quitte de vous approcher. Vous êtes quitte de recevoir mon imposition des mains, tout ça, même que j'ai la petite bouteille là. Mais j'aimerais vous inviter, premièrement, s'il y a quelqu'un qui a besoin de confesser quelque chose au Seigneur, simplement faites-le là où vous êtes. Prenons un temps comme ça, simplement. Il y a des fois, on vit avec une culpabilité. Vous savez, je vous parle d'une culpabilité qui est costaud. Je vais vous raconter une histoire. Et je comprends qu'on peut être culpabilisé. Un jeune homme rentrait d'une fête de village, vous savez, dans le Jura, à partir du mois de juillet, les fêtes de village s'enchaînent les unes après les autres. Et puis après, les gens doivent s'en remettre. Il faut qu'ils fassent une cure de désintox jusqu'à Noël, parce qu'ils sont très... Enfin, ça boit beaucoup et tout ça. Et un jeune garçon rentre d'une fête de village dans sa voiture et il y a des gorges à passer comme ça. Et déjà la voiture était un bon bolide. En plus de ça, il avait vraiment, vraiment trop bu. Et dans un contour, il percute une voiture. À l'intérieur, il y avait une famille entière avec trois enfants, deux parents, le papa, la maman, trois enfants. Et il y a un seul enfant qui va s'en sortir parce qu'il est en train de jouer avec un casque à vélo sur la tête. Et c'est le seul qui va survivre à ce crash. Vous vous rendez compte, le jeune homme, toute sa vie, il va, si Dieu ne le touche pas, j'imagine les cauchemars qu'il doit vivre, j'imagine, ce qu'il va essayer de faire pour essayer de laver ça, de sa vie, de son être intérieur. Et des fois, ça nous arrive. Il y a des choses qu'on a fait où on n'est pas fier. Ou par exemple, des choses que nous n'avons pas faites et que nous aurions dû faire et qu'on a passé à côté. Et tout d'un coup, pouf ! Ah, punaise ! Si j'avais fait ça, ça ne se serait pas passé comme ça. Et puis, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça. Ou il peut y avoir des choses où tout d'un coup, avec un membre de la famille qui nous a blessés, et puis qu'on dit, qu'on laisse comme ça. Et je vous raconte quelque chose de très personnel, mais c'est Fabienne qui devrait le raconter. Fabienne a perdu sa sœur, 45 ans. Mon épouse, donc Fabienne, a perdu sa sœur, 45 ans, d'un cancer. Pendant des années, ils ont maintenu une relation. Oui, il fait beau aujourd'hui. Ou oh, il va pleuvoir. Il n'y avait rien. Il y avait même un peu de rancune, de jalousie et de choses comme ça. Et puis, un 1er avril, Fabienne reçoit un téléphone et il lui disait, mais c'était sa sœur à l'hôpital, qui lui disait, mais j'aimerais te dire au revoir. Et Fabienne est allée, et ils ont vécu une réconciliation. Et Fabienne a dit, mais tout ce temps perdu. Et des fois, on peut vivre ça aussi. Puis des fois, on peut se culpabiliser aussi par rapport à ça. Fabienne a réellement dû vivre une intervention de Dieu par rapport à ça. Elle a vraiment dû vivre cette parole qui dit « Je changerai votre deuil en allégresse ». Ça a été un parcours qu'elle a dû vivre par rapport à ça. Mais des fois, là aussi, des fois, tout d'un coup, on est resté fâché avec quelqu'un et puis tout d'un coup, cette personne, pouf, elle part. Et puis on se dit « Mais waouh, combien d'années j'ai perdu ?» C'est stupide. Et on a besoin d'être comme lavé par Dieu de ça, parce qu'on se culpabilise. Et j'aimerais vous laisser un temps là. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais j'aimerais simplement vous laisser un petit temps comme ça, avec Dieu. Ouais. Seigneur, merci. Ouais. Et peut-être que vous pouvez juste exprimer, pas à haute voix, à mi-voix, mais c'est important juste que ça puisse sortir de votre bouche. Ne le dites pas fort comme ça, mais simplement à mi-voix. Mais c'est important que ça soit prononcé. C'est vraiment important que ça soit juste prononcé, que Dieu puisse l'entendre. Seigneur, merci. Merci de ce que tu viens toucher les bien-aimés. Seigneur, tu as accordé ton pardon à Manassé. Et il n'est même pas dit que... il est dit que Manassé s'est humilié profondément. Mais Seigneur, j'aimerais te demander de venir toucher toutes les personnes qui peut-être, Seigneur, luttent avec une culpabilité Et peut-être que l'adversaire rajoute encore des couches là. Et j'aimerais, Seigneur, te demander grâce, que tout joug de culpabilité soit enlevé de dessus mes bien-aimés maintenant. Au nom de Jésus, que tout joug de culpabilité soit enlevé. Seigneur, tu entends les prières, tu entends peut-être ces demandes de pardon. Et Seigneur, tu as promis dans ta parole qu'à celui qui confesse, ben toi tu es fidèle, tu es fidèle, tu es juste pour pardonner, et non seulement pardonner, mais laver de toute iniquité. Alors Seigneur, merci, merci Seigneur, que Seigneur, tout joug de culpabilité soit enlevé maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. J'aimerais aussi te demander que tu puisses laver les uns aux autres, les uns les autres, de toutes paroles qui se sont dites à eux-mêmes par rapport à cette culpabilité. De toutes ces paroles peut-être négatives qui se sont dites à eux-mêmes. Et j'aimerais te demander de les laver de ces paroles maintenant. Seigneur, tu fais couler ces paroles à terre maintenant, qui sont là comme, Seigneur, comme de la boue qui est sur les corps. C'est les paroles négatives qu'ils ont prononcées contre eux-mêmes et qui ont besoin d'être lavées de cela. Seigneur, merci de les laver de ces paroles. Ouais. Et Seigneur, tu as Manassé, tu l'as sorti de sa prison. Et j'aimerais te demander, Seigneur, de sortir toute personne qui se trouve ici, qui se trouve comme dans une prison et qui a besoin de sortir de cette prison, qui a besoin d'être libérée de chaînes. Seigneur, tu libères des chaînes et tu ouvres les portes des prisons ce soir. Je te demande cette grâce. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres de toute chaîne dans le nom de Jésus. Et tout ce qui revient sans cesse, qui est comme un cercle, ça va un moment et ça, et tout d'un coup, boum, ça revient. Ce schéma où on a l'impression que tout d'un coup on peut aller jusqu'à un certain point et puis paf, c'est comme si on avait une chaîne qui nous retient. On peut bouger jusque de quelques mètres et tout d'un coup, boum, on a une chaîne qui est toujours attachée et qui nous retient. Je brise ces chaînes maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tous ces schémas qui durent depuis des années soient brisés dans le nom de Jésus. Et si vous connaissez ces schémas, et si ça vous parle, et si c'est quelque chose que vous dites oui, oui, ça revient sans cesse, dites-le au Seigneur. Dites-le à mi-voix au Seigneur. Et Seigneur, tu entends ces paroles, comme tu as entendu Manassé au fond de sa prison. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu fais. Et la troisième chose que j'aimerais voir avec vous, simplement, c'est que vous n'êtes pas des moins que rien. Vous n'êtes pas des nuls. J'aimerais que tout sentiment, toute pensée d'indignité parte maintenant dans le nom de Jésus. Vous êtes des fils et des filles du Père. L'apôtre Pierre dit, et même les anges le proclament dans l'Apocalypse, que vous êtes un peuple de sacrificateurs et un peuple de rois. Vous êtes des rois et des reines. Alors que toute indignité maintenant s'en aille dans le nom de Jésus. Que toute indignité s'en aille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manassé, il ne méritait pas d'être remis sur le trône. Il a été remis sur le trône. Dieu l'a jugé digne d'être remis sur le trône. Et tu es digne du sacrifice de Jésus à la croix. Tu es digne d'être le porteur ou la porteuse, je ne sais pas si ça se dit en français, de son message. Tu es digne de la vie qui vient d'en haut pour toi. Tu es digne d'être une habitation du Saint-Esprit. Que toute indignité s'en aille maintenant, dans le nom de Jésus. Pensée d'indignité, maintenant ça suffit, dans le nom de Jésus. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas. Seigneur, j'aimerais te demander d'accorder cette grâce. Que, Seigneur, c'est comme si certains ont besoin de recevoir ce manteau d'en haut. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai une drôle de pensée. Thérèse, aide-moi pour les références, je ne sais plus. Tu sais, à un moment donné, il y a un sacrificateur qui s'appelait Josué, où tout d'un coup on lui dit, où il y a comme une proclamation, et on dit qu'un nouveau vêtement lui soit donné. Tu te souviens de ça? Ou un nouveau turban? Il y a un texte comme ça. Le type, il s'appelait Josué. C'est un sacrificateur. Ce n'est pas Josué qui prend le pays. C'est un sacrificateur. Et à un moment donné, on a appelé. Je crois même que c'est l'adversaire qui vient réclamer quelque chose. Il me semble que c'est quoi? C'est dans Zacharie, quelque chose comme ça. Si quelqu'un l'a avant moi, on va pouvoir le lire. Mais je prie qu'il y a besoin que des nouveaux vêtements soient donnés. Il y a besoin comme d'un vêtement de dignité puisse être soit donné. Et je prie que ces vêtements vous soient donnés maintenant. Vas-y, Zacharie 3. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Seigneur, j'aimerais te demander ces vêtements, ce vêtement royal pour chacun et chacune. Seigneur, je prie pour ce vêtement royal, que tout vêtement qui n'est pas un vêtement royal soit enlevé maintenant dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, ces vêtements royaux, ces vêtements qui marquent la dignité, qui marquent la position, qui marquent l'autorité, soient donnés maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de bénir ces bien-aimés. Merci, Seigneur, de les accompagner dans ce temps estival. Que durant ce temps estival, Seigneur, ils puissent expérimenter encore davantage ta présence, qu'ils puissent expérimenter cette réalité, cette vérité que tu les as établis dans ta maison, qu'ils sont des fils et des filles du Père, qu'ils sont des sacrificateurs et des rois, qu'ils puissent expérimenter cela durant ce temps estival, Seigneur. Merci de bénir chacun et chacune. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.